Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Compréhension, confiance, complicité ou routine, jalousie et découragement. Le couple peut être associé à des sentiments très contradictoires, la protection ou l'épanouissement pour le meilleur, mais aussi le conflit ou la jalousie pour le pire. Et lorsque se retrouver au quotidien face à l'autre tient plus de l'ennui que de l'éveil des sens, il est peut-être temps de se poser des questions. Communique-t-on de façon satisfaisante? Depuis quand n'a-t-on pas partagé un moment agréable? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Et finalement, est-ce que nous avons vraiment envie de continuer ensemble? Des questions et des doutes qui parfois nécessitent l'intervention d'un tiers pour réactiver l'envie de partager du temps, des idées, de l'intimité, pour dépasser ses problèmes ou même une crise qui ne trouve plus de résolution dans le face-à-face. C'est dans ce cadre que la thérapie de couple peut trouver sa pertinence, sa place, des conseils, une écoute, une médiation, une démarche pour retisser le lien et décider si, oui ou non, l'histoire continue à deux ou si les chemins se séparent. 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard. C'est le sous-titre de votre livre. Caroline Crouz, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes thérapeute de couple, conseillère conjugale et familiale. Votre ouvrage, publié aux éditions du Rocher, s'intitule « Il faut qu'on parle ». Faire face aux problèmes de couple, nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Sénégal Oumouli Kane, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fane de Dakar. Et puis en fin d'émission, on va parler du programme Success, initiative dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, menée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, mais aussi au Guatemala et aux Philippines. Nous serons en ligne avec Éric Fleutelot, directeur du pôle Grande Pandémie chez Expertise France.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien sûr, pour cette émission consacrée aux épreuves qui peuvent jalonner la vie d'un couple, on va donner une large place aux témoignages, aux questions de nos auditeurs au 33 84 22 75 75. Et je lance cet appel, mesdames, appelez-nous, car jusqu'à présent, seuls des hommes ont voulu partager avec nous leurs expériences et les doutes. Et dans un couple, il faut être deux. Alors Caroline Crouz, votre livre se découpe en plusieurs petites dizaines de problématiques dialoguées. C'est illustré par Benoît Bastard. Dans la plupart des cas, ce sont des rencontres à trois. Le couple, le thérapeute, la thérapeute, des silhouettes, quelques phrases échangées avec quand même pas mal de reproches. Et tous ces cas de figure, est-ce que vous les avez rencontrés pendant votre exercice ou même il y en a encore d'autres que vous n'avez pas pu justement mettre dans ce livre?
Alors, tous les cas de figure, oui, bien sûr, puisque ça c'est fondé sur l'expérience que j'ai depuis 30 ans maintenant. Et il y a certainement d'autres problématiques que je n'ai pas abordées dans le livre, puisque les problématiques, les difficultés que peuvent rencontrer les couples sont multiples. Et elles sont, même de petits soucis peuvent amener à de grands conflits.
Et c'est vraiment ce qu'on constate, parce que quand on les voit de l'extérieur, c'est toujours plus facile quand on a un œil extérieur que lorsqu'on est vraiment plongé dans le problème. On se dit, c'est pas si compliqué. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de consulter pour ça? Et vous répondez oui.
Alors je réponds oui si on a essayé de résoudre d'abord ensemble le problème, la difficulté, si on a pu en parler, et qu'on constate qu'on n'y arrive pas. Je fais pas tout couple n'a pas forcément besoin d'aller voir.
C'est pas l'apologie du couple, de la thérapie.
Non, bien sûr que non. Mais il arrive un moment quand les gens, quand ils viennent dans le cabinet, disent on a essayé et vraiment on a envie d'y arriver. Ils viennent quand même avec l'envie de comprendre, l'envie d'essayer, l'envie de tenter quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, donc ils demandent l'aide d'un tiers, comme on demande l'aide d'un tiers dans toutes sortes d'autres domaines de la vie.
Alors dans votre livre, ce sont des silhouettes. Qui sont justement ces couples, Caroline Crouz? Qui sont ces hommes, ces femmes qui viennent en consultation?
Alors, juste un mot sur les silhouettes. Oui, c'est exprès que le dessin est très simplifié, en sorte que le lecteur puisse se projeter dans l'image. C'est très volontaire, qu'il n'y ait pas d'yeux, qu'il n'y ait pas de bouche. Maintenant, qui sont ces gens? Ils sont vraiment, ça va de gens très jeunes, de couples très jeunes, qui ont moins de 30 ans, à des gens pour qui, par exemple, la retraite peut poser un problème, une difficulté, parce qu'ils se retrouvent tous les deux et qu'ils ont à réinventer. On vit plus vieux maintenant. ils ont à inventer une nouvelle vie d'après la retraite. Et parfois, il y a quelques frottements qui n'arrivent pas à résoudre ensemble. Donc, ils viennent, comme je disais tout à l'heure, demander l'aide d'un tiers.
Alors, il y a l'initiative, entamer une thérapie, comme on dit, Caroline Cruz. Est-ce que c'est une décision partagée? Non pas forcément le déclic, mais de venir comme ça, aller raconter sa vie. Et certains qui sont réticents disent « étaler sa vie ».
Oui, alors c'est amusant parce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, que les gens qui souhaitaient témoigner étaient plutôt des hommes. Or, dans la pratique, c'est vrai que ce sont surtout des femmes qui sont à, pas toujours, mais ce sont des femmes qui sont à l'initiative de la démarche. Néanmoins, quand le conjoint vient, ben il vient. Ça veut dire qu'il a fait quand même en entraînant un peu les pieds, même en disant ça me concerne pas tellement. Il fait cet effort. Et si on est un petit peu, si on a un peu d'expérience professionnelle, on arrive à l'intéresser. Et très souvent, les conjointes sont surprises de voir à quel point, au cours de la première séance, cet homme qui était décrit comme mutique, taciturne, parle. Il parle et ça l'intéresse et c'est souvent lui qui demande à ce qu'on reprenne rendez-vous tout de suite.
Est-ce qu'on dévoile tout de suite? Est-ce que le couple en conflit annonce tout de suite la couleur? On veut sauver notre histoire, on veut parler, on veut refaire l'amour. Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, le propos est assez généralisant au début, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se parler, ou on se dispute tout le temps. Derrière, il y a d'autres problématiques qui apparaissent, qui sont celles qui apparaissent éventuellement dans le couple.
Beaucoup de vie quotidienne.
Beaucoup de vie quotidienne. En gros, c'est soit un manque de dialogue, soit le dialogue ne s'exprime plus que par les querelles et le conflit. Et bien sûr qu'après, il peut y avoir aussi des difficultés sexuelles, des questions avec les enfants, enfin, tout ce qui apparaît. Mais disons que c'est tous ces problèmes dont ils n'arrivent plus à parler ensemble.
Est-ce que justement le motif exposé, révélé, verbalisé, correspond au final à la véritable raison de la tension ou des fois c'est pas du tout le cas?
Voilà, vous avez tout à fait raison. Par exemple, justement sur la sexualité, des gens disent voilà, on fait plus l'amour depuis je ne sais pas combien de temps et on se rend compte que cette panne de libido est plutôt une conséquence qu'une cause de la difficulté du couple. S'ils ne font plus l'amour, c'est parce que ça va plus trop bien entre eux, parce que, et là, on essaye de comprendre d'où ça vient, en interrogeant aussi les familles respectives, la manière dont ça se rebalance d'une certaine manière dans le couple. Mais oui, vous avez raison, c'est pas forcément le symptôme qui est prégnant.
Alors, est-ce que renouer la communication, certaines de vos silhouettes ont les cheveux gris, est-ce que renouer la communication après beaucoup d'années, eh bien, c'est possible? Est-ce que ça s'apprend?
Alors, ça s'expérimente dans les consultations. Ça s'apprend. Voilà, c'est plus où ça s'expérimente, c'est-à-dire qu'on constate que oui, finalement, tiens, là, on arrive à se parler. Toute la difficulté, ça va être de ne pas cantonner le dialogue aux séances de thérapie. C'est-à-dire qu'il va falloir, justement, un peu comme on réapprend à marcher, enfin, expérimenter que ça fait du bien, que c'est agréable de se parler, et que finalement, cette amorce-là qui intervient dans la thérapie, on peut continuer à la pratiquer à la maison.
Et est-ce que un cas particulier, est-ce que vous estimez, Caroline Cruz, que le problème posé parfois ne relève pas de votre ressort, de cette thérapie de couple? Je veux penser en particulier aux violences conjugales. On parle de disputes, on parle de ceci, et puis finalement, il y a la révélation, il y a les coups, il y a peut-être du viol conjugal, il y a peut-être des choses épouvantables. Comment on réagit à ce moment-là?
C'est rare que ça apparaisse. Au cours de la deuxième ou troisième séance. Oui et non. C'est-à-dire que les gens qui, alors, dans des consultations privées, les violences conjugales n'apparaissent pas. Parce que, il y a un amont quand même de ce type de problème et c'est tout à fait contre-indiqué de venir avec son conjoint violent, faire une thérapie de couple. C'est absolument pas le lieu. On va pas rencontrer quelqu'un qui vous viole ou qui vous tabasse.
Mais bien évidemment. Mais ça veut dire, est-ce que si c'est révélé que vous n'en aviez pas connaissance, vous dites, on arrête, c'est pas de mon ressort?
Oui, enfin, oui, il y a d'autres cas où on peut, je peux dire, on arrête, c'est pas dans mon ressort, de la jalousie pathologique, par exemple, on ne peut rien faire parce que l'autre est emporté par sa passion. On peut, bien sûr, les violences conjugales, c'est souvent la femme seule qui vient nous parler. À ce moment-là, on l'adresse, on lui donne des adresses d'associations, on la soutient, on l'accompagne.
Ce sont d'autres professionnels qui prennent le relais.
C'est d'autres professionnels qui prennent le relais, absolument.
Alors, justement, on va passer à d'autres cas. Là, des cas de conflits beaucoup plus apaisés, mais ça pose problème aussi. On prend tout de suite en ligne les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est Claude qui est en ligne avec nous, du Cameroun, de Douala précisément. Bonjour Claude.
Bonjour, quel honneur j'ai de passer sur votre antenne.
Ça fait bonjour très Caroline. Plaisir, ça fait très plaisir. Caroline Cruz est à votre écoute, allez-y, racontez-nous.
Allez, bonjour Caroline,
bonjour,
bonjour à toute votre équipe, bonne et heureuse année.
Vous aussi,
et
allez-y.
Et bonjour particulier à Ophélie Lassène.
Ah.
Alors, moi c'est Claude.
Oui, on écoute, on écoute votre histoire, moi, allez-y.
Voilà, moi c'est Claude, j'appelle du Cameroun. Je suis marié depuis 12 ans et le thème de votre émission d'aujourd'hui m'a parlé et je me suis dit que tiens, je pourrais passer pour en parler. Le problème que j'ai généralement avec mon couple, c'est des problèmes d'éducation de nos enfants. Je peux dire à près de 75%, c'est un problème d'éducation des enfants. Ma femme et moi, nous n'entendions pas généralement sur ce qu'il faut faire pour les enfants. Et lorsque je lui dis ce que je pense, elle pense généralement le contraire. Et quelquefois, ça nous donne des éclats de voix.
Des éclats de voix, ça veut dire des disputes assez fréquentes?
Fréquentes, oui, parce que le matin, il faudrait préparer les enfants. Elle est peut-être en retard. À moi de lui dire, tiens, voilà ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut prévoir être sur le lever un peu plus tôt, préparer pour ne pas arriver en retard. Ben, elle va me retorquer en me disant, non, moi, j'ai tellement fait, tu sais, tu dois m'aider, oui, je dois t'aider. Mais le matin, évidemment, je me mets à l'aider, mais quelquefois, ils arrivent en retard, par exemple.
Alors, on sait bien que les enfants, ça prend beaucoup de place dans le temps d'une famille, mais malgré tout, vous n'avez pas des moments d'apaisement?
Ben, écoutez... Je veux dire, on a des moments d'apaisement dans tous les cas. C'est pas aussi grave. On n'aurait pas fait 12 ans. Bon, vous comprenez que ce qui m'est difficile en général, c'est de lui faire comprendre le bon fondé de ma pensée. Et généralement, je lui dis sur une base, il paraît que il est plus important de faire comme ça. La science nous dit de faire ci, par exemple. Il faut accompagner les enfants à l'école, c'est plus mieux. Ne prends pas la comparaison d'un voisin qui laisse son enfant rentrer, c'est pas prudent. Voilà. En bref, j'ai remarqué que mon épouse, elle aime moins les reproches, mais elle aime beaucoup les compliments.
Et c'est somme toute assez naturel, non, Claude? Vous aussi, j'imagine que vous préférez le matin un petit t'as bonne mine que vraiment t'as une tête de déterré.
Ben, madame, écoutez, lorsqu'on est responsable, on doit s'atteler à ce que tout soit un tout petit parfait, mais hélas. Mais vraiment, ma difficulté avec elle, c'est le reproche et comment lui faire comprendre le bon fondé de chaque chose. Parce que, quelquefois, elle est basée sur les idées reçues, tu as dit ça, etc. Je lui dis, et pourtant, moi, je pars d'une base. J'ai la science d'ici, l'information à distance.
Vous argumentez. Caroline Cruz, absolument. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Claude? C'est vrai que ce qu'il dit en matière, par exemple, de sécurité pour ses enfants, ça semble assez coulé de source. Ils ont quel âge, vos enfants, Claude?
J'ai 8, 10 et 2 ans.
Oui, donc des enfants de très jeunes, comme ça, évidemment, vos arguments plaident pour vous. Caroline Cruz, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Claude?
Déjà, de manière générale, c'est vrai que l'éducation des enfants, enfin, le témoignage de Claude est vraiment intéressant parce que l'éducation des enfants, c'est un sujet, hein, pour les couples. On a reçu chacun une éducation, on vient d'une famille différente, on a reçu une éducation différente, soit on en prend le modèle, soit le contre-pied, mais on n'est pas forcément, et c'est une surprise parfois, hein, parce que le couple va bien jusqu'au moment où l'enfant arrive et où on doit l'élever, et là, on se rend compte que, on pense pas tout à fait la même chose chacun. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que l'enfant il doit aussi pouvoir affronter, c'est un bien grand mot pour un enfant, mais connaître aussi que son papa et sa maman sont pas forcément toujours du même avis, à condition que ce ne soit pas des sujets de conflit vraiment violents et devant lui. Maintenant, la difficulté, c'est que j'ai l'impression que, d'après ce que vous dites, Claude, c'est un peu argument contre argument. C'est-à-dire, vous dites une chose, votre femme pense le contraire, et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver des compromis, c'est-à-dire de lister, par exemple, les sujets concernant les enfants sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, et que il y en ait un certain nombre. Bon, bah, c'est votre femme qui, disons, s'en charge, et peut-être dans la liste, vous chargez du reste, et en vous contraignant l'un et l'autre à accepter que quand l'un est en charge, bah, l'autre ne dit rien. Hein. Alors peut-être que pour la question de sécurité, ça pourrait être vous qui vous en chargez.
Donc les accompagner,
pourquoi pas, et dans d'autres domaines. Mais c'est vraiment important, c'est qu'à partir du moment où on décide qu'on laisse à l'autre la responsabilité d'une tâche, eh ben on la lui laisse complètement. Sinon, ça devient compliqué.
Moi, j'ai une petite question, Claude. Ces questions, est-ce que vous en parlez simplement quand vous êtes en conflit, ou des fois vous vous asseyez tranquillement pour mettre les choses sur la table en dehors de ce moment de dispute?
Oui. C'est ce qu'on fait. Quand on voit que le temps est apaisé, je remets ça. Quelquefois en blague, c'est elle qui me lance en blague. Je me suis débrouillé seul. Qu'est-ce que tu peux me dire maintenant? Bon, écoutez, c'est que votre invité vient de me dire. Et justement, ce que j'ai fait, on a fait des compromis. Et avant, c'est moi qui accompagnais des enfants à l'école. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, OK, je te laisse la tâche et à toi de t'en charger. Mais je remarque que lorsque je lui laisse la tâche, il y a toujours des choses à dire. C'est ni par exemple, quand je la connaissais, je ne connaissais pas que c'était une femme violente. Lorsqu'elle, par exemple, doit tenir les enfants le soir ou bien dans l'après-midi quand ils sont rentrés, à la moindre faute, elle va bastonner l'enfant. Et moi, ça me fait extrêmement mal.
Et je le comprends tout à fait. On peut dire qu'il y a des sujets qui prêtent à négociation. Il y a d'autres sujets qui ne prêtent pas à négociation, tout simplement. Il y a des interdits, et ça fait partie des interdits que vous avez pour vous-même et des interdits qui sont généraux pour les enfants, pour leur bien-être. La violence ne fait pas partie de l'éducation.
Non, la violence, c'est pas un mode d'éducation, mais peut-être que dans ce cas-là, Claude, ça vaudrait le coup, non pas de faire une thérapie de couple au long cours, mais d'aller voir un tiers pour mettre à plat ces choses-là avec votre épouse, et pour que quelqu'un, puisque vous n'arrivez pas à vous faire entendre d'elle,
un regard extérieur
peut-être pourrait l'éclairer un peu, essayer de comprendre aussi pourquoi elle est violente. Peut-être que si elle est violente, c'est parce qu'elle-même a reçu une éducation violente et qu'elle n'arrive pas à s'empêcher de reproduire ça avec ses enfants, même si parfois, sans doute, elle le regrette. Donc ça vaudrait le coup d'arrêter ça avant que ça devienne une habitude. Et la question de la violence, c'est vraiment, envers les enfants, envers les adultes, peu importe, c'est vraiment une question importante qu'il faut arrêter maintenant. Et je pense que votre femme doit en souffrir, même si elle le dit pas, doit en souffrir autant que vous de se voir. On n'est jamais heureux d'être violent. Donc je pense que c'est une souffrance pour elle. Ça vaudrait le coup d'aller en parler devant quelqu'un, franchement.
Et c'est ça, cette démarche que vous avez entamée avec nous, Claude, la poursuivre avec quelqu'un d'autre, justement, pour exposer ces problèmes que vous venez nous dévoiler. Très, très bonne journée à vous au Cameroun. Claude, on va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est Lionel qui est en ligne avec nous. Bonjour Lionel.
Bonjour Caroline, bonjour à l'autre Caroline.
Mais voilà, ça simplifie aujourd'hui, ça simplifie les choses.
Vous mettez un S à Caroline, donc ça ira très bien. Bonjour Lionel.
À vous, racontez-nous votre histoire, allez-y.
Alors moi, pendant un an et demi aujourd'hui, j'ai vu sous un même toit avec ma petite amie, bon, désormais ma fiancée. Alors, c'est à cause de la grossesse qu'on est ensemble. C'était compliqué au début, mais finalement, les parents ont accepté qu'on soit ensemble. Tout allait bien au début, au départ. Les choses étaient extrêmement bien organisées. Mais pendant un certain temps avant, justement, son accouchement, et on a connu d'autres problèmes. Mais seulement, je voulais partager un témoignage. Je pense que ça fonctionne avec nous, ce qu'est. Nous, pendant nos problèmes, on n'arrête pas de se communiquer. Donc, la communication fait partie de nos forces aujourd'hui. Donc, même quand on passe une mauvaise soirée, le matin, on reprend zéro, comme si rien n'était passé hier soir. Donc, la communication, même quand on n'était pas encore ensemble, quand on ne vivait pas encore ensemble, donc la communication était toujours au centre, ça nous a forcément aidés. Mais un autre problème qui nous a aussi fragilisés, c'est la naissance de l'enfant, et qui a un peu détourné l'attention de sa maman et qui ne s'occupait plus de moi. Bon, ça, on a, à travers les conseils des gens, on a réussi à surmonter ces problèmes. Mais j'ai eu une préoccupation en termes de questions. Je voulais beaucoup plus demander conseil à l'autre Caroline.
Bien sûr, allez-y Lionel, allez-y.
Parce que les problèmes, c'est par rapport à sa jalousie. Ma fiancée a un défaut, elle n'était pas créée des relations avec les gens. Elle peut passer une ou à deux semaines sans parler à quelqu'un, donc pour elle, c'est normal. Alors, moi, d'abord, de formation, j'ai fait la communication. La communication, c'est naturel pour moi. Alors, du coup, quand on est ensemble avec elle à la maison, je n'arrive plus à parler avec mes amis, des connaissances. Elle ne veut pas me voir en ligne pendant 10 minutes, se connecter à WhatsApp ou à Facebook. Alors, du coup, je sens quand je suis à la maison, je me sens coincé, je ne peux plus rien faire. Donc, sa jalousie est très forte. Je ne sais pas s'il y a une thérapie de jalousie pour ma fiancée, sinon je n'arrive pas. Je sens que je dois faire semblant. Alors je ne sais pas comment faire pour régler un peu ces problèmes.
Je vais donner tout de suite la parole à Caroline Cruz. J'ai une question. Lionel, est-ce que vous sortez en compagnie de votre petite amie, justement avec vos amis, pour lui faire rencontrer ses amis, non pas sur Facebook, mais dans la vraie vie?
Non, ça jamais. Elle refuse carrément. Et quand on fait des sorties, c'est seulement à deux. Donc avec mes amis, elle me dit toujours qu'elle ne supporte pas mon entourage. Mm-hmm. Elle donne des raisons. Et je lui dis, bon, présente-moi ton entourage, comme ça on va sortir avec ton entourage. Et là-bas, elle donne toujours des raisons. Donc elle est trop enfermée, très un peu distante, voilà.
Caroline Cruz, qu'est-ce que vous pouvez dire à Lionel?
C'est un vrai problème, oui. Je pense que d'après ce que vous décrivez de votre amie, de votre compagne Lionel, vous dites elle est pas très sociable, elle est un peu repliée, elle peut rester sans parler, bon, et elle est jalouse. Bon, tout ça, ça signe quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, enfin, il faudrait peut-être, vous le savez sans doute mieux que nous, n'a pas très confiance en elle. Hein, c'est-à-dire que c'est une personnalité un peu, un peu fragile dans ce sens-là, c'est-à-dire que le regard des autres l'inquiète, et donc n'ayant pas confiance en elle, elle pense que toutes les autres femmes sont plus intéressantes qu'elle, et que donc si vous sortez, vous allez forcément rencontrer quelqu'un de plus intéressant qu'elle, puisque elle n'est pas très intéressante. Enfin, c'est ce qu'elle pense du moins. Et bon, il faut que vous essayiez déjà au maximum de la rassurer, essayez peut-être de voir avec elle d'où ça lui vient, ce manque de confiance en elle. Est-ce qu'elle n'a pas été assez aimée par ses parents? Je sais pas. J'ai pas les clés là-dessus, mais ça vient sûrement de quelque part. La rassurer, mais aussi dans sa jalousie, si sa jalousie l'emporte trop, l'arrêter. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les accès de jalousie, c'est comme du poison. C'est-à-dire ça se met à envahir, ça vous ronge de l'intérieur, et ça lui fait d'abord à elle beaucoup de mal. Donc la rassurer et l'arrêter en même temps quand elle part trop dans sa jalousie. Bon, c'est des
conseils.
Des conseils un peu de base, mais je crois que ça vaudrait le coup d'essayer de comprendre pourquoi elle refuse de sortir, pourquoi elle veut pas être vue, qu'est-ce qui se passe. Enfin, après tout, cette jeune femme, vous la trouvez belle, intéressante, vous l'aimez. Donc, rassurez-la un peu là-dessus, mais essayez peut-être un peu de comprendre d'où ça lui vient, ce manque de confiance en elle.
Il y aurait moyen, Lionel, imaginons, d'organiser un petit dîner que vous organiseriez chez vous avec un ou deux amis, pas la foule, mais faire venir une ou deux personnes pour apprendre à lier connaissance, c'est quelque chose d'envisageable ou quelque chose d'impossible?
Je peux dire impossible, malheureusement je dirais que c'est impossible puisque je l'ai déjà essayé par le passé, mais elle ne veut toujours pas.
Elle mais, ne veut pas.
Bon, enfin, vraiment, je ne sais pas, vous la connaissez encore une fois mieux que moi, mais vous devez, ça doit vous dire quelque chose quand même, le fait que je vous dise qu'elle n'est pas confiance en elle, que c'est, qu'elle n'est pas assurée d'elle-même. C'est vraiment comme ça que naît la jalousie. La jalousie, ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi.
Mmh. L'amener à parler d'elle-même avec vous pour essayer de comprendre.
Oui.
Je comprends parfaitement, Caroline, dans ce que vous dites. Je trouve quand même il y a quelques indices, puisqu'au départ, quand on se connaît, c'était une fille qui avait des principes, des règles. Elle ne veut pas mettre au monde avant le mariage. Elle avait beaucoup de principes. Et après, quand cette histoire des corsets est arrivée, c'est une fille, j'ai l'impression que c'est une autre phase, un autre côté facial de ma fiancée. Donc, elle a beaucoup perdu.
Oui, donc essayez de voir autour de ça, de parler avec elle, d'essayer de mieux comprendre d'où ça lui vient et à partir de là, de la rassurer. Et bon, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, à mon avis.
Avec des encouragements, puisque vous êtes en train de préparer ce mariage. Lionel, très bonne journée à Kinshasa. On reste dans la capitale de la RDC avec Gracia en ligne avec nous. Bonjour Gracia.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Oui, je voulais juste participer à l'émission pour qu'on puisse partager ensemble un petit souci qui me dérange tellement grand.
Mmh. De quoi s'agit-il?
Oui, j'ai une relation amoureuse. Ça fait 5 mois que je suis avec la fille.
Mmh.
Je l'ai eue avec un petit garçon qui a une année maintenant là.
Mmh.
Et c'est que auparavant, on était en bon terme avec la fille. La fille me traitait tellement calmement. Alors, je me suis dit, c'est elle là qui me faut un jour, peut-être dans le mariage, dès que je vais finir avec mes études universitaires. Mais actuellement, j'ai compris que, comme si rien ne marche avec la fille, elle n'arrive plus à supporter mes remarques. Elle a développé un comportement un peu bizarre, elle m'appelle plus, elle m'écrit plus, si elle m'écrit sur WhatsApp, comme je suis une personne qui ne voulait pas m'écrire.
Et mais c'est depuis quand? Il y a eu un événement particulier qui a déclenché chez elle ce changement?
Oui, il y a un téléphone qu'elle m'a offert en cadeau. J'ai compris que la fille commençait à espionner mes appels, mes messages sur WhatsApp. Elle voulait juste savoir à qui je parlais. Dès que j'ai compris ça, je l'ai grondé. Bon, la fille a cherché à trouver une raison qui n'était pas fondée. Bon, elle s'est fâchée contre moi. Le matin, je l'ai appelée pour lui dire « Non, tu fais ça parce que c'est un téléphone que tu m'as offert au commun. Tout si c'est le cas, je te les restitue ton téléphone. »
Gracia, pour parler concrètement, ça veut dire que votre petite amie vous soupçonnait d'infidélité, c'est ça?
Non, je n'ai pas compris pourquoi elle posait de tels actes. Parce que à tout moment, elle était avec moi, on s'est parlé. Elle m'a jamais parlé d'un problème d'infidélité.
Et aujourd'hui, vous en êtes où avec elle? Vous l'avez vue quand? Vous lui parlez
aujourd'hui,
quand?
Aujourd'hui, ça ne marche presque plus.
Et elle vous a expliqué? Elle vous a dit « je veux arrêter » Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce que vous, finalement, vous n'essayez pas de la retenir un petit peu, puisque vous la sentez qui s'en va, non?
Oui, parce que j'ai essayé de lui parler, il me dit souvent il n'y a rien, j'ai essayé d'envoyer l'une de mes petites sœurs qui collaborent avec elle, et là c'est toujours la même réponse qu'il n'y a rien.
Il n'y a rien. Caroline Cruz, c'est assez compliqué l'affaire de Gracia, on sent cette jeune fille qui veut s'éloigner. Difficile.
C'est-à-dire qu'elle a un comportement, je trouve, un peu contradictoire, dans la mesure où elle donne un téléphone, elle s'en sert, d'après ce que dit Gracia, pour espionner, vérifier les appels, ce qui pourrait être un comportement jaloux, mais enfin au moins ça montrerait qu'elle s'intéresse à lui et que qu'elle tient à lui. Et par ailleurs, elle donne pas signe de vie. Et quand on lui pose la question indirectement pour savoir s'il y a quelque chose, il y a rien. Là, je crois qu'il faudrait vraiment avoir une conversation sérieuse avec elle, Gracia, une explication, en lui disant que vous ne comprenez pas et que vous les de savoir si oui ou non elle a envie de continuer une relation avec vous. C'est une relation qui dure depuis 5 mois. Certes, c'est pas mal, 5 mois. Vous êtes amoureux, mais en même temps, si cette jeune fille est aussi contradictoire, bah peut-être que une fois que vous en aurez le cœur net, je ne sais pas si cette relation, si elle vous fait souffrir cette relation, et ça a l'air d'être le cas, est-ce qu'il vaut mieux continuer ou pas. Mais je crois que ça nécessite vraiment que vous ayez une discussion sérieuse avec elle. Oui, bien sûr.
Voilà, Gracia. Très bonne journée à Kinshasa. Décidément, aujourd'hui, beaucoup d'auditeurs de la capitale, de Kin. Patrick, on vous prend en ligne. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Caroline.
On est à votre écoute. Allez-y.
Oui, je suis Patrick, marié depuis 6 ans, Yatila, avec ma femme. Et nous avons 3 enfants. J'ai constaté qu'au fur et à mesure, je perdais sa confiance. Parce que je lui cachais des choses sur ma fidélité, sur l'argent. Et je m'irai aujourd'hui répartir sur une bonne base pour qu'elle cesse d'être méfiante envers moi. Alors pour ça, je serais intéressé de savoir que faire pour regagner sa confiance et ainsi améliorer notre relation.
Je vais vous poser une question assez directe, Patrick. Vous dites, je lui cachais des choses sur ma fidélité. Ça veut dire que vous étiez infidèle.
Oui, je dirais ça.
Oui, et elle a appris.
Soupçonné.
Soupçonné ou appris? Vous en avez parlé directement avec elle?
Non, mais du moins, je sens qu'elle soupçonnait que j'avais des relations extra...
Est-ce que vous souhaitez rétablir la confiance? Mais si vous n'en avez pas parlé avec elle, ça va être compliqué, non, de rétablir la confiance?
Mais du moins, je vais mener cette démarche, je vais faire cette démarche, elle. Ça veut dire que j'ai décidé de vivre autrement. Et puis
Personnellement,
j'ai déjà abandonné ces choses, cette vie-là.
D'accord, vous avez changé de comportement.
Maintenant, le problème reste elle.
Donc, vous avez vraiment envie que ça continue avec elle, de reprendre une relation dans la confiance. Caroline Cruz, qu'est-ce que vous voulez dire à Patrick?
Alors, peut-être 2 choses. De manière plus générale, je rebondissais sur ce que vous disiez, Caroline. Lui, alors, s'ils sont des infidélités, je dirais passagères, il vaut mieux ne pas en avoir, parce que ça, comme Patrick peut le constater, ça ne fait pas du bien à un couple. Néanmoins, je suis pas trop pour qu'il lui en parle maintenant. S'il a décidé vraiment de stopper ce comportement et de se consacrer à son couple, s'il parle des infidélités passées, ça va fixer les images dans la tête de sa femme. Elle va s'imaginer ce qu'il faisait avec une autre femme, et ça va être alors là extrêmement difficile. Là, il vaut mieux dans ce cas-là essayer de la reconquérir, de la reséduire, de montrer qu'on est un mari attentionné, d'être bienveillant envers elle, de faire tout ce qu'elle attend dès et qu'elle peut trouver maintenant chez Patrick, puisqu'il a décidé de changer de vie et de comportement, et de lui montrer, de lui prouver en lui disant voilà, je sais que tu as perdu la confiance en moi, mais moi mon but maintenant ça va être de reconquérir, je vais faire ça, se mettre d'accord sur des choses qui pourraient la rassurer, qu'est-ce qui pourrait la rassurer, lui poser la question et mettre toute son énergie là-dedans plutôt que de revenir sur un passé qui me paraît pas vraiment intéressant d'évoquer.
Et Patrick, dans votre tête, vous pensez justement aux raisons qui vous poussent à vouloir continuer avec elle, à lui dire justement tout le bien que vous pensez d'elle, de la relation, retrouver les mots des débuts presque?
Oui, effectivement, c'est ma femme. Je ne pense pas mettre fin avec cette relation. C'est ma femme, c'est mon épouse. C'était juste des relations là passagères, mais maintenant je vais cesser avec ça. J'ai déjà cessé. Mais la grande préoccupation était aussi par rapport à l'argent. Parce que je n'étais pas assez transparent par rapport à la gestion financière. J'ai caché d'argent par moment. Alors ça, du moins, elle a su ça. Ça, du moins, elle connaît. Elle connaît que je ne suis pas assez transparent. Alors pour ça, pourtant même dans ça, j'ai décidé de vraiment être transparent envers elle.
Et d'opérer un grand changement.
Oui, je pense que Patrick, vous avez toutes les clés en main là pour savoir ce qu'il faut faire. Hein. Donc voilà, il faut mettre votre énergie là-dedans.
Voilà, Patrick, bonne journée à Kinshasa. On va partir tout de suite pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver au Moulikane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar. Alors, lors des consultations de couple, vous constatez dans votre cas précis hein, pour ces consultations à Dakar, qui prend l'initiative, qui est à l'origine du rendez-vous ?
La femme.
La femme, oui. Voilà, nous on a eu beaucoup d'hommes en ligne, hein, mais ce sont les femmes qui font la démarche.
Oui, quelquefois j'ai rarement des hommes qui viennent et ce n'est pas pour soigner le couple, mais c'est pour voir quel est l'impact sur les enfants. Mm-hmm. Le plus souvent c'est ça. Si on divorce, si on ne s'entend pas, quel effet ça fait sur nos enfants. Mais généralement, c'est la femme. À 90%, c'est la femme qui vient, qui dit, bon, ça ne va plus, je voudrais bien réfléchir, et tout, et tout. Alors là, je demande si, parce que ici, quand on se marie, on a le mari a un parrain, la femme a une marraine. Mm-hmm. Est-ce qu'on a été voir son parrain? Est-ce qu'on a été voir le marabout de la famille? Et des choses comme ça, quoi, d'abord. Et ensuite, je dis oui, on a été, ça n'a pas donné, c'est pour ça que je suis là. Mmh. Alors, bon, on essaie de cheminer ensemble, de voir comment faire venir le mari. Il y en a qui viennent facilement, il y en a qu'il faut attendre qu'ils soient prêts, et d'autres ne viennent jamais. Parce qu'ils ont vraiment tourné le dos et c'est fini.
Et justement, voilà. Et justement, ces personnes, quand elles expriment les motifs de la consultation, vous avez cité l'impact, par exemple, des conflits, des disputes pour l'éducation des enfants, pour ce que ressent tout le développement des enfants. Il y a quoi d'autre aussi? Des gens qui ne se parlent plus, des infidélités, ce qu'on a entendu tout à l'heure un petit peu avec nos auditeurs.
Oui, des infidélités ou le problème d'argent. Mmh. Le problème d'argent aussi, que le mari donnait avant, par exemple, une dépense conséquente. Mais de plus en plus, il diminue la somme en disant que la femme gâte trop et gaspille de l'argent et tout. Alors là aussi, ça pose des problèmes.
Est-ce que ces problèmes de couple, c'est quelque chose dont on parle plutôt dans votre pays, le Sénégal, ou Moulikane, ou ça relève plutôt du tabou?
Entre intimes, oui.
Ça reste entre les murs de la maison.
On en parle.
Entre intimes,
la femme. La femme fait les démarches pour voir quelles sont les personnes influentes sur le mari, par exemple, pour lui parler, que ce soit un oncle, que ce soit un ami, et voir quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules, comme on dit, et qui peut parler au mari et qu'il puisse entendre. Oui.
Et comment est-ce que vous réagissez lorsque, eh bien, au milieu de la conversation, au milieu de ce que vous disent les femmes, il est révélé qu'il y a, par exemple, au-delà des disputes, des violences conjugales. Comment vous faites?
Là, je ne suis pas d'accord. Je leur montre que je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Par exemple, il y a un problème. C'est-à-dire qu'avant, quand les couples jeunes se mariaient, ils restaient dans des familles, que ce soit la belle famille, que ce soit bon, maternelle ou paternelle. Et bon, on accompagnait ces jeunes couples en donnant des conseils, en arrêtant la violence, des choses comme ça, jusqu'à ce que le couple trouve son équilibre, ou en tout cas, on voit quand même qu'ils sont matures et qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que bon, on remarque, en tout cas moi dans ma consultation, je remarque qu'il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de jeunes femmes viennent et disent ah oui, on est divorcé. Une fois, une matinée, j'ai reçu 5 femmes, et les 5 femmes étaient divorcées. Et avec 1 ou 2 enfants, pas plus. Mais actuellement, c'est que quand le couple se marie, il s'installe en appartement, et bon, la confrontation est beaucoup plus violente que s'ils étaient dans une famille où quelqu'un tempère. Les violences.
Le mode de vie a une influence directe sur la vie de ce couple, d'après votre observation.
Tout à fait. Que ce soit sur le mariage, sur le lien du couple, que ce soit sur l'éducation des enfants, vraiment, il y a... Je ne voudrais pas raser les étages de Dakar, du Sénégal, mais en tout cas, ça a un impact extrêmement négatif de ce que je rencontre, en tout cas.
Il y a les sentiments, mais il y a aussi le matériel. Ça compte aussi, hein.
Oui, le matériel compte aussi. le matériel compte aussi. Ouais.
Merci beaucoup pour ces explications, Moulikane. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
On poursuit cet échange avec vous, Caroline Cruz, auteure du livre « Il faut qu'on se parle », publié « Il faut qu'on parle », ça c'est le bon titre, publié aux éditions du Rocher. Vous disiez, c'est vrai, avec ce que disiez votre consoeur Moulikane, on voit que l'organisation du quotidien, le changement dans les couples, eh bien tout cela, ça ne contribue pas vraiment à pérenniser les relations. C'est même un danger du quotidien. Si les gens se séparent autant, c'est aussi parce que la vie n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et très douce.
Juste avant, je trouvais que c'était très intéressant l'intervention. Je trouvais l'intervention de ma confrère très très intéressante sur le fait que ces jeunes sont passés d'une organisation à une autre, hein, et qu'il n'y a pas eu de transition, et que du coup ils se retrouvent un peu déboussolés, passant d'un système où on est pris en charge un peu par la famille, où il y a toutes sortes de tiers qui peuvent intervenir pour les aider aussi avec les enfants et aussi pour gérer les conflits, à ils se retrouvent tous les deux avec des difficultés. Moi, je trouve ça passionnant. Maintenant, la question, c'était autour des frottements du quotidien, c'est ça? Oui, mais c'est toujours cette question de la routine. Moi, j'aime bien distinguer la bonne routine de la mauvaise routine. Hein, la bonne routine, c'est quand même qu'on est content d'être en couple, qu'on est content le soir de rentrer après justement un contexte difficile, professionnel, social, et on est content de se retrouver un peu au chaud, quoi.
C'est réconfortant.
Voilà, c'est réconfortant. Et c'est vrai aussi que le contexte social ou professionnel fait peser beaucoup de choses aussi sur le couple. Cette exigence de sécurité, de réconfort, mais aussi on attend du coup beaucoup du couple, et ça peut aussi devenir problématique dans la mesure où on finit par en attendre trop, vouloir un couple parfait, et s'il est pas parfait, on se sépare et on trouve un autre couple parfait, et ainsi de suite. Et ça, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer souvent, et moi j'ai beaucoup de jeunes couples justement qui viennent en disant, mais nous on veut pas de ça, c'est-à-dire qu'on veut pas de couple Kleenex, c'est vrai on a des difficultés, mais on aimerait bien essayer de les surmonter et aidez-nous à les surmonter.
Est-ce que vous avez l'impression, ce sera pratiquement ma question de fin, que beaucoup de couples viennent consulter trop tard?
Ils le disent en tout cas. Certains le disent. Ceux qui viennent consulter à 50, 55, 60 ans disent c'est bien dommage. Il y a eu tel ou tel événement qui nous a vraiment éloignés l'un de l'autre et à ce moment-là, on aurait dû consulter. Alors, trop tard, je dirais que s'ils viennent, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard parce que la démarche elle-même est une démarche qui montre l'importance qu'on attache à son couple.
Merci beaucoup. Il y a toutes ces questions qu'on n'a pas abordées, notamment la libido qui intéresse toujours beaucoup nos auditeurs, l'intimité. C'est quelque chose que vous abordez systématiquement, ces questions de sexualité?
Alors systématiquement non, mais quand elles arrivent, bien sûr, on les aborde. Alors il y a aussi, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, c'est la question de la sexualité ou des difficultés sexuelles peut être une difficulté prioritaire, c'est-à-dire que tout va bien sauf ça, ou peut être une conséquence d'un malaise dans le couple. Et à ce moment-là, on commence par s'occuper du malaise, et très souvent après, la sexualité va mieux.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à toutes ces questions, avec ces 60 sujets abordés en couple avant justement qu'il ne soit trop tard. Caroline Cruz, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé.
Merci à vous, Caroline.
Priorité Santé sur RFI.
Une initiative pour intensifier la prévention du cancer du col de l'utérus dans 4 pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guatemala, Philippines. Convention pour renforcer le dépistage, une prise en charge précoce, programme conjoint donc, qui est mené par Unitaid et Expertise France. Ce programme s'appelle Success. Alors pour en parler, on retrouve en ligne Eric Fleutelot. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes le directeur du pôle Grande Pandémie chez Expertise France. Eric Fleutelot, question très simple pour commencer. Combien de femmes sont concernées par ce programme, par cette initiative?
Alors, un peu moins de 200 000 femmes vont pouvoir être dépistées au cours des 3 prochaines années, dans les 4 pays que vous avez cités, donc les Philippines, le Guatemala, et puis surtout au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.
Alors, vous ciblez certaines populations particulières?
Alors, toutes les femmes sont concernées par la prévention et le dépistage du cancer du col de l'utérus, mais on sait maintenant que les femmes qui vivent avec le VIH, donc qui sont infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, sont plus susceptibles de développer un cancer du col de l'utérus, tout simplement parce que leur système immunitaire est plus faible, et donc la co-infection entre le VIH et l'HPV, le papillomavirus humain, qui cause le cancer du col de l'utérus, va se développer plus rapidement. Donc c'est une population qui est plus ciblée, en effet.
Alors, on parle dépistage, on parle prévention. Précisément, Eric Flotelot, sur quoi repose tout ce dispositif? Ce sont quoi ces différents leviers?
Alors, dans un premier temps, on va essayer de renforcer le dépistage de l'HPV, donc du papillomavirus humain, et notamment de vérifier si les femmes sont porteuses d'un papillomavirus humain qui est susceptible de créer des cancers. Hein. Tous les génotypes du papillomavirus humain ne développent pas forcément des cancers, mais certains oui. Et donc, on va, à partir de là, renforcer la surveillance.
Par le frottis?
Alors, le frottis va permettre de pouvoir isoler du papillomavirus humain et donc de faire un dépistage. Mais ensuite, il va falloir faire un examen pour vérifier s'il n'y a pas des lésions précancéreuses. Et là aussi, ça fait partie de l'innovation qu'on va tenter de mettre en œuvre dans les quatre pays. C'est avec un nouveau système d'imagerie de faire appel à l'intelligence artificielle et de vérifier si on ne peut pas repérer plus facilement les lésions précancéreuses. Et c'est très intéressant parce que si on repère mieux les lésions précancéreuses, on pourra les traiter. Et c'est donc de la prévention secondaire du cancer du col, qui veut dire qu'on évitera à ces femmes-là d'être confrontées à un cancer du col de l'utérus parce qu'on éliminera par thermoablation, donc c'est très simple, c'est une technique qui est approuvée maintenant par l'OMS, on éliminera les lésions précancéreuses et donc on évitera l'apparition du cancer.
Pour parler concrètement, ça veut dire que ce n'est pas un traitement lourd. En une intervention, avec c'est sans anesthésie, on peut justement retirer ces petites lésions quasiment, on va dire, hein,
tout à fait.
En les grillant légèrement. Voilà, tout simplement.
C'est de la thermoablation, donc c'est avec de la chaleur. Alors, c'est relativement peu douloureux, bien entendu, on le sent, mais c'est faisable. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est de démontrer que c'est faisable dans des centres de santé périphériques, pas forcément dans les meilleurs hôpitaux des grandes capitales, mais essayer de le faire là où les femmes consultent déjà pour d'autres raisons, en santé sexuelle ou de la reproduction, mais elles viennent aussi consulter pour leurs enfants, etc.
Et c'est une vraie ambition de santé publique, hein, parce que il faut le souligner, ce cancer du col de l'utérus, 311 000 décès chaque année, plus de 570 000 nouveaux cas, ça veut dire qu'il faut s'en emparer. L'OMS vise l'élimination justement de cette transmission.
Oui, alors on a deux méthodes. Hein. On a renforcé la vaccination contre le papillomavirus avec la vaccination anti-HPV, qui est de plus en plus disponible dans les pays et qu'il faut tout le monde ait accès à cette vaccination, si possible, avant l'âge du premier rapport sexuel. Et puis ensuite, il faut dépister et traiter les lésions précancéreuses, ce qui évitera d'avoir à traiter des cancers qui, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher.
Alors, un programme sur 3 ans, Eric Flotelot, dernière question. Est-ce qu'après cette période, il va y avoir une phase d'évaluation?
Oui, tout à fait. On va évaluer au fur et à mesure et ensuite on va porter les conclusions en lien avec l'OMS pour démontrer si on arrive à démontrer que c'est faisable de décentraliser le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses pour pouvoir passer à l'échelle et donc réduire cette mortalité que vous avez évoquée, qui est terrible parce que très sincèrement, aujourd'hui dans les pays développés, en France, en Europe, on a considérablement diminué le nombre de nouveaux cancers du col de l'utérus et le nombre de décès. Et c'est donc totalement injuste que dans les pays les plus pauvres, on n'arrive pas à le faire.
Merci beaucoup Eric Flotelot, directeur du pôle Grande Pandémie chez Expertise France. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Et demain, nous allons parler de la consommation d'alcool. Réduire ou arrêter, l'occasion de ce défi du mois de janvier sobre, opération organisée en France par des organisations de lutte contre les addictions pour réfléchir sur cette consommation. Et on attend, comme chaque jour, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. Est-ce que vous avez déjà, de votre côté, déjà essayé d'arrêter? À demain et d'ici là, portez-vous bien.